Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Noël Alozito Kabambi à la présentation.
Neuf des 26 provinces congolaises vivent encore sous le seuil de la pauvreté, notamment la province du Sankuru. Pour le représentant résident du PNUD en RDC, à Kinshasa, c'est pratiquement la moitié de la population qui est exposée à la pauvreté. Propos tenus ce jeudi 17 octobre, journée internationale de lutte contre la misère, la guerre et la paupérisation de la population. Dans ce journal, on ira aussi en Ituri, où les habitants du village Mwanga, en majorité des retournés et des déplacés, vivent dans une pauvreté extrême. Ils demandent d'être soutenus par des autorités et des organisations humanitaires pour relancer les activités agricoles. Pour avoir violé les mesures de sécurité prises par le ministre des Transports du gouvernement central, deux bateaux sont interdits temporairement de navigation sur le lac Kivu et le capitaine d'un troisième bateau est aux arrêts à Calais au sud Kivu. Plus de détails dans ce journal. Professeur Alice Ajob est notre invité. Le secrétaire général à la recherche de l'Université des Martyrs du Congo au Nord Kivu annonce l'ouverture cette année académique 2024-2025 d'une école de criminologie au sein de cette institution. Bonsoir à tous. Ce jeudi 17 octobre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. En RDC, 9 des 26 provinces vivent encore en dessous du seuil de pauvreté. Parmi ces entités, le représentant résident du PNUD en RDC cite le cas de la province du Sankuru. Se basant sur les statistiques des autorités congolaises, Damien Mama révèle que 9 personnes sur 10 dans cette partie du pays vivent encore avec moins de 2 dollars par jour, comparativement à Kinshasa où c'est la moitié de la population qui est exposé à la pauvreté. Ce haut fonctionnaire des Nations Unies attribue ce phénomène aux crises multiformes qui affectent le monde. Mais il loue tout de même les efforts déployés par les autorités congolaises à travers le programme de développement des 145 territoires pour résoudre ce problème. Damien Mama en parle au micro de Ronéline Tibonera.
Pour éliminer la pauvreté, il faut des investissements simultanés dans presque tous les secteurs de la vie, l'éducation, la santé, la formation, l'emploi, l'investissement privé, les infrastructures de base, mais en ayant aussi à l'esprit les éléments de durabilité et s'assurer que toute personne qui court le risque d'être laissée de côté est prise en compte. Alors, donc, ces investissements simultanés demandent beaucoup de moyens, les moyens dont les États africains ne disposent pas généralement, mais quand on prend, par exemple, la RDC où l'État a quand même réussi à augmenter les recettes intérieures, à plus que doubler le budget général de l'État, ce sont des signes encourageants qui montrent que, avec un peu plus d'efforts en matière de mobilisation de ressources internes, mobilisation de ressources externes et aussi une bonne allocation de ces ressources dans les secteurs qui peuvent impacter durablement la vie des communautés, donc on a espoir que nous allons pouvoir faire des progrès un peu plus rapides. Mais c'est très clair que si les crises multiples qui ont plongé des millions de personnes dans la pauvreté continuent, ce sera extrêmement difficile.
Et pour illustrer cette pauvreté, rendons-nous en Ituri. Le village de Mwanga, situé à environ 10 km de Bunia dans le territoire d'Irumu, est peuplé en grande partie des retournés et des déplacés. Ils font face à une misère profonde malgré leur résilience. Jean-Claude Lokidile nous emmène sur place pour découvrir la dure réalité de ses habitants.
À Mwanga, la misère est palpable. Les habitants, principalement des retournés, ayant tout perdu lors des attaques des groupes armés, luttent jour et nuit pour subvenir à leurs besoins essentiels. Leur situation, déjà précaire, est aggravée par l'absence d'accès aux ressources agricoles, autrefois essentielles à la survie de la communauté. Jean de Dieu Kabulabo, président des jeunes du village, témoigne de la dureté des conditions de vie à Mwanga.
Il n'est pas facile de trouver à manger ici. Pour l'instant, nous nous démenons, mais ce n'est pas facile de trouver de l'argent, car ici, notre principale activité, c'est l'agriculture.
La pauvreté dans la région ne découle pas seulement du manque de ressources, mais également des violences armées qui sévissent dans les zones avoisinantes. Isaac Kimbabu, chef du groupement Babulogu, appelle à un soutien urgent des autorités et des organisations humanitaires pour relancer les activités agricoles.
Nous produisons ici du haricot, des maniocs, des arachides, du maïs, mais nous aimerions qu'on puisse nous aider avec des tracteurs en vue de booster notre production agricole.
Aujourd'hui, plusieurs villages en Ituri sont plongés dans une pauvreté alarmante. aggravée par l'insécurité qui persiste. Malgré les résiliences, les populations locales continuent à lutter pour la survie dans ces conditions extrêmement difficiles. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Parlons santé dans le Tanganyika. Plus de 209 000 enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite dans la zone de santé de Moba. C'est plus que le résultat attendu malgré quelques cas de résistance dans certains villages. Ce bilan a été dressé hier par le comité local de la communication de la zone de santé de Moba dans le territoire du même nom. Des activités de la quatrième phase de vaccination contre la poliomyélite. On écoute Pierre Kalungwe, chef de bureau du comité local de communication, dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
La population de Moba, cette fois-ci, a adhéré massivement parce qu'on a constaté de partout là, les enfants qui suivaient même les équipes de vaccination en route pour se faire vacciner. Mais est-il qu'il y a toujours des cas isolés? Ce sont là les cas de refus, mais beaucoup sont gérés par les IP. On ne peut pas tout vacciner, c'est un problème de mentalité de la population que nous gérons, mais ça viendra progressivement. Je fais appel à la population parce que ce vaccin qu'on est en train de nous amener par le gouvernement, ce n'est pas un vaccin pour tuer sa population. Sinon, si le gouvernement a amené un vaccin pour tuer sa population, il sera gouvernement de quel peuple? Parce qu'on doit gérer la population, les 600 populations, comment on serait appelé autorité, on serait appelé gouvernement. La population doit comprendre que le vaccin, c'est pour le bien-être, pour que cette population ait une bonne santé.
À Kinshasa, les travaux d'assainissement de la ville, tels que le débouchage des caniveaux, l'évacuation des déchets et bien d'autres, ont débuté depuis quelques semaines dans certaines communes de la capitale. L'hôtel de ville de Kinshasa et ses partenaires font exécuter ces travaux progressivement. Mais qu'en est-il de l'apport de la population kinoise dans l'assainissement de sa ville? Comment l'amener à pérenniser les résultats de ces travaux? Élément de réponse dans ce reportage de Miradine Fouengui.
Cela fait déjà quelques semaines que les travaux de nettoyage ont commencé dans certains quartiers et communes. C'est le cas à Ngiringiri, à Kasavubu, Kalamu et certaines parties d'Engaliema. Ces activités consistent à nettoyer les caniveaux, à retirer les bouteilles et autres objets qui empêchent l'eau de couler normalement. Cependant, au sein de la population, beaucoup semblent indifférents à ces activités. Certains kinois que nous avons rencontrés décrivent ce problème.
J'ai vu les travaux d'assainissement qui ont été faits ici. Il n'y a même pas deux semaines. Les immondices commencent déjà.
Le problème, c'est que les gens qui habitent sur le coin des avenues ont pour habitude de jeter leurs poubelles dans les caniveaux.
Certains estiment que c'est le manque d'assainissement efficace dans les communes qui ont amené la population à transformer les caniveaux en dépotoirs.
Les immondices dans les caniveaux ne finiront jamais tant qu'il n'y aura pas de poubelles publiques.
Quand on grandissait, il y avait les services d'assainissement et les poubelles publiques. Mais aujourd'hui, ces services n'existent plus.
Que faire pour emmener la population à changer la mentalité? Yves Bolombello, ancien cadre de l'environnement,
que l'exécutif provincial intensifie la sensibilisation de la population, mais également l'application des sanctions.
C'est vendredi dernier que tous les bourgmestres devaient remettre chacun le plan de développement de sa commune à l'hôtel des villes.
Je vous le disais dans le sommaire, deux bateaux sont interdits temporairement de navigation sur le lac Kivu. Le capitaine d'un troisième bateau est lui aux arrêts à Calais, au sud Kivu. Ces décisions des autorités provinciales font suite à la violation des mesures prises par le ministre national des Transports, notamment éviter toute surcharge, interdiction de naviguer la nuit et utilisation impérative des gilets de sauvetage pour tous les passagers. Depuis Bukavu, Jean Kassami.
La suspension concerne les bateaux à Ganze et Izinza. Les autorités provinciales qui annoncent la décision reprochent aux propriétaires de fouler aux pieds les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement central, à savoir l'interdiction de naviguer la nuit, l'utilisation impérative des gilets de sauvetage, le chargement excessif ainsi que la validation du certificat de navigation. Pour le même motif, un capitaine du bateau Gloria est aux arrêts à Kinyezire dans les territoires de Calais. Un leader du milieu encourage les armateurs à observer les mesures des autorités. Maregane souhaite que les embarcations promises par le chef de l'État soient disponibles pour alléger les transports lacustres sur l'axe Minova-Idjigoma.
Je reviens au niveau des 4 bateaux de dette que le gouvernement avait donné pour le territoire de Calais et le territoire de Jijuy. Ces bateaux ont disparu, on ne sait pas comment. En principe, si ces bateaux étaient là, ils pourraient transporter un nombre moyen de gens et à tour de rôle, entre Goma Minova, les quais d'accostage sont là, mais il n'y a pas de bateau, alors que c'est une des promesses du chef de l'État.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Le gouvernement de la RDC sollicite l'implication du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ainsi que la mobilisation de la communauté internationale pour la gestion de plus de 7 millions de déplacés internes. C'est ce qui ressort de la rencontre hier à Genève en Suisse entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Jacquemin Chabani dit avoir aussi demandé la facilitation du HCR pour une tripartite avec les pays voisins en vue du retour des réfugiés dans leurs pays respectifs. On écoute Jacquemin Chabani dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Il est important pour le gouvernement de se rassurer que tout cela est non seulement connu, considéré, mais aussi qu'une mobilisation internationale est mise en place pour sa gestion, parce que les conséquences ou les causes de cette crise humanitaire sont aussi dues à certaines réalités sur le plan international. Il nous a rassuré de son implication et nous allons continuer à suivre, parce que au niveau du gouvernement, nous avons aussi des structures qui sont mises en place pour la gestion de ces situations-là. Et il était important pour nous de nous rassurer que nous regardons tous dans la même direction et que nous allons continuer à travailler la main dans la main pour le bénéfice de ces populations, mais aussi arriver à mettre fin à ces situations catastrophiques. Et nous avons aussi insisté sur la tripartite autour du HCR avec les différents pays qui sont concernés par la présence des réfugiés sur le sol congolais ou la présence de réfugiés congolais sur leur sol, de manière à ce qu'on se convienne formellement avec ces différents pays, que ce soit la Centrafrique, surtout le Rwanda.
En plus bref, au Nord Kivu, les FRDC annoncent avoir tué deux leaders du groupe armé ADF, annonce faite lors des opérations conjointes avec l'armée ougandaise UPDF, opération menée depuis le week-end dernier dans le secteur de Bapere, territoire de Lubero. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola en Grand Nord des FRDC qui livre cette information affirme que ce sont deux commandants impliqués dans les actions des ADF. Le colonel Makazukai appelle la population à éviter la zone des opérations militaires. Pendant ce temps à Goma, plus de 80 ex-combattants démobilisés et des jeunes à risque sont cette semaine dans la phase finale de leur formation de réinsertion socio-économique. Ils sont au terme de 3 mois d'une formation en réparation des téléphones mobiles. La formation assurée par l'entreprise Nokia Asbel est financée par la MONUSCO à travers le Fonds de réduction des violences communautaires sévères. Bernard Nyangi a visité ces jeunes et nous propose ce reportage.
Ce sont en tout 45 garçons et 35 filles désœuvrés ou sortis il y a quelques années des forces et groupes armés. Après 3 mois de formation théorique et pratique, ils vont maintenant être déployés par nombre de 8 pour former 10 ateliers. Tout le matériel nécessaire pour leur insertion sont déjà disponibles. Ces jeunes qui étaient déjà dans l'incertitude ne peuvent plus cacher leur joie. Témoignage.
Je serai dans mon atelier où je serai rémunéré, ce qui m'évitera des problèmes de l'oisiveté au quartier. Je vais dire merci à la MONUSCO.
Le coordonnateur provincial adjoint du programme PDDRCS chargé des opérations encourage cette initiative de la MONUSCO qui, pour lui, est un modèle très pratique de réinsertion communautaire.
Ces jeunes gens vont entrer maintenant dans la communauté avec un bagage, un métier qui va aider leur famille. Et demain, ils vont se retrouver dans la vie et n'auront plus encore besoin de rentrer dans la forêt. Voilà ce qui est très important dans ce projet.
Après le déploiement de ces jeunes, un suivi et accompagnement sur le terrain sont prévus pour se rassurer de leur bonne évolution. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Quelques 1100 personnes sont mortes de Mpox en Afrique. Déclaration ce jeudi de l'Agence sanitaire de l'Union africaine. Elle avertit que l'épidémie était en passe de devenir hors de contrôle si aucune mesure n'est prise. Au total, 42 000 cas ont été enregistrés en Afrique depuis janvier, ont indiqué de leur côté les centres de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC. Notez que la majorité des décès ont eu lieu en RDC, considéré comme l'épicentre de l'épidémie qui a lancé une campagne de vaccination Au début de ce mois d'octobre toutefois, il y a sur l'ensemble du continent toujours davantage de nouveaux cas, semaine après semaine, annonce Africa CDC. Le Mpox, appelé auparavant variole de singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme, mais se transmet aussi entre humains lors des contacts physiques prolongés, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées.
L'invité.
L'Université des Martyrs du Congo ouvre cette année académique 2024-2025 son école de criminologie. Le secrétaire général à la recherche de cette institution, que nous recevons comme invité, fait cette annonce. Professeur Alissa Diop dit que l'autorisation officielle a déjà été accordée depuis le 3 septembre dernier par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Quelle peut être l'importance d'une telle faculté, en particulier dans le contexte de l'Est de la RDC? Réponse du professeur Alissa Diop dans cet entretien qu'il a accordé à Bernard Nyangi. Suivez.
Professeur Alissa Diop, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Depuis l'année dernière déjà, l'Université des Martyrs du Congo avait déjà commencé la première promotion du département de la criminologie. Aujourd'hui, vous quittez le département pour l'école de criminologie. Pourquoi cette différence? Est-ce qu'il y a une raison pour cela?
Je voulais vous préciser que c'est par... une autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire que nous avons changé notre filière de criminologie à une école de criminologie. Et la différence est que la filière fonctionnait au sein du domaine des sciences de l'homme et de la société. Mais pour aujourd'hui, cette école de criminologie déviée tout un domaine en particulier avec d'autres axes. C'est que à l'école de criminologie aujourd'hui, nous avons le droit d'organiser la sécurité intérieure, la criminologie clinique, également la paix et la résolution des conflits, la criminologie économique et environnementale, mais aussi la criminologie organisationnelle et opérationnelle. Et déjà, vous comprenez que, au lieu de parler seulement de la criminologie, dans l'école de criminologie, on a tout détaillé, les axes ou les orientations qui fonctionneraient au sein de cette école.
Et quelle peut être l'importance d'une école de la criminologie, surtout dans le contexte Nord-Kivu ou de la ville de Goma, qui aujourd'hui est située dans une zone à conflit armé?
Il faut savoir que dans une zone à post-conflit comme le Nord-Kivu, Ituri, à l'Est en général, l'importance d'une école de criminologie est très cruciale pour la construction durable et la stabilité de ces régions. Donc il faut retenir que ces zones font face à des défis spécifiques et qui nécessitent une approche où nous devons avoir des experts qualifiés et pour élever les problématiques complexes liées à la sécurité, la justice, la réhabilitation des institutions. S'il faut maintenant donner les avantages de cette école par rapport aux filières, par exemple la sécurité intérieure, c'est une orientation qui permet de renforcer la gestion et la prévention des menaces internes qui persistent par rapport à des crimes organisés, des milices, des groupes armés. Donc cette filière va former des experts en sécurité intérieure qui va contribuer à la stabilité dans la région et même assurer les contrôles des populations déplacées, les maintenir, les maintenir de l'ordre public, renforcer les services de sécurité. Donc ce sont des experts qui vont intervenir sur plusieurs axes. Pour ce qui concerne la criminologie clinique, bon, c'est une spécialité hein, très fondamentale dans une zone post-conflit où les traumatismes des guerres sont fréquents. Elle permet de comprendre les comportements, souvent l'influence par des violences passées, d'élaborer des programmes de réhabilitation pour les criminels, les victimes et les communautés affectées. Donc les criminologues cliniques sont essentiels pour traiter les problèmes psychologiques est lié à la violence des guerres. Pour l'orientation paix et résolution des conflits, nous devons former des experts aussi qui sont capables de négocier et de trouver des centres d'écoute par rapport à des promotions et des cohésions sociales, des dialogues et des stratégies de paix durable, capables de maintenir la paix, de réconcilier les gens dans une zone comme celle-là où il y a des conflits entre intercommunautaires, des conflits entre des pays. Ce sont des gens qui vont intervenir sur ces plans-là pour que, en tout cas s'agissant des paix, il y ait des gens qui sont expérimentés dans les recherches des solutions durables.
Professeur Alice Job, je rappelle que vous êtes le secrétaire général à la recherche à l'Université des Martyrs du Congo. Nous vous remercions.
Et voilà, et c'est la fin de cette édition d'information du soir en langue française sur Radio Okapi, un journal mis en onde par Alain Goy et présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. À la coordination, c'était Jude Mister Bilanda, sous la supervision de Pele Kipelamundo. Merci à vous tous de nous avoir suivis.